Chapitre 3. Une apparition. Je n'avais jamais fait de longue course à bicyclette. Celle-ci était la première. Mais depuis longtemps, malgré mon mauvais genou, en cachette, Jasmin m'avait appris à monter. Si déjà, pour un jeune homme ordinaire, la bicyclette est un instrument bien amusant, que ne devait-elle pas sembler à un pauvre garçon comme moi, qui naguère encore traînait misérablement la jambe, trempé de sueur dès le quatrième kilomètre. Du haut des côtes, descendre et s'enfoncer dans le creux des paysages, découvrir, comme à coups d'aile, les lointains de la route qui s'écartent et fleurissent à votre approche, traverser un village dans l'espace d'un instant et l'emporter tout entier d'un coup d'œil. En rêve seulement, j'avais connu jusque-là une course aussi charmante, aussi légère. Les côtes même me trouvaient plein d'entrain, car c'était, il faut le dire, le chemin du pays de Maulne que je buvais ainsi. Un peu avant l'entrée du bourg, me disait Maulne, lorsque jadis il décrivait son village, on voit une grande roue à palette que le vent fait tourner. Il ne savait pas à quoi elle servait, ou peut-être feignait-il de n'en rien savoir pour piquer ma curiosité davantage. C'est seulement au déclin de cette journée de fin d'août que j'aperçus, tournant au vent dans une immense prairie, la grande roue qui devait monter l'eau pour une métairie voisine. Derrière les peupliers du pré se découvraient déjà les premiers faubourgs. À mesure que je suivais le grand détour que faisait la route pour contourner le ruisseau, le paysage s'épanouissait et s'ouvrait. Arrivé sur le pont, je découvris enfin la grande rue du village. Des vaches paissaient, cachées dans les roseaux de la prairie, et j'entendais leurs cloches, tandis que, descendu de bicyclette, les deux mains sur mon guidon, je regardais le pays où j'allais porter une si grave nouvelle. Les maisons où l'on entrait en passant sur un petit pont de bois étaient toutes alignées au bord d'un fossé qui descendait la rue, comme autant de barques, voiles carguées, amarrées dans le calme du soir. C'était l'heure où, dans chaque cuisine, on allume un feu. Alors la crainte et je ne sais quel obscur regret de venir troubler tant de paix commencèrent à m'enlever tout courage. À point pour aggraver ma soudaine faiblesse, je me rappelais que la tante Moinelle habitait là, sur une petite place de la Ferté-d'Angillon. C'était une de mes grand-tantes. Tous ses enfants étaient morts, et j'avais bien connu Ernest, le dernier de tous, un grand garçon qui allait être instituteur. Mon grand-oncle Moinel, le vieux greffier, l'avait suivi de près, et ma tante était restée toute seule dans sa bizarre petite maison où les tapis étaient faits d'échantillons cousus, les tables couvertes de coques de poule et de chats en papier, mais où les murs étaient tapissés de vieux diplômes, de portraits de défunts, de médaillons en boucle, de cheveux morts. Avec tant de regrets et de deuil, elle était la bizarrerie et la bonne humeur même. Lorsque j'eus découvert la petite place où se tenait sa maison, je l'appelai bien fort par la porte entr'ouverte, et je l'entendis, tout au bout des trois pièces en enfilade, pousser un petit cri suraigu. « Elle a mon Dieu !» Elle renversa son café dans le feu, à cette heure-là, comment pouvait-elle faire du café ? Et elle apparut. Très cambrée en arrière, elle portait une sorte de chapeau capote capeline sur le faîte de la tête, tout en haut de son front immense et cabossé où il y avait de la femme mongole et de la hottentote. Et elle riait à petits coups, montrant le reste de ses dents très fines. Mais tandis que je l'embrassais, elle me prit maladroitement, hâtivement, une main que j'avais derrière le dos. Avec un mystère parfaitement inutile, puisque nous étions tous les deux seuls, elle me glissa une petite pièce que je n'osais pas regarder et qui devait être de 20 francs. Puis, comme je faisais mine de demander des explications ou de la remercier, elle me donna une bourrade en criant « Va donc, je sais bien ce que c'est !» Elle avait toujours été pauvre, toujours empruntant, toujours dépensant. « Oh, j'ai toujours été bête et toujours malheureuse, » disait-elle, sans amertume, mais de sa voix de fausset. Persuadée que les sous me préoccupaient comme elle, la brave femme n'attendait pas que j'eusse soufflé pour me cacher dans la main ses pétins, ses économies de la journée. Et par la suite, c'est toujours ainsi qu'elle m'accueillit. Le dîner fut aussi étrange, à la fois triste et bizarre, que l'avait été la réception. Toujours une bougie à portée de la main, tantôt elle l'enlevait, me laissant dans l'ombre, et tantôt la posait sur la petite table couverte de plats et de vases ébréchés ou fendus. « Ah, celui-là, disait-elle, les Prussiens lui ont cassé les anses en 70, parce qu'ils ne pouvaient pas l'emporter. » Je me rappelais seulement alors, en revoyant ce grand vase à la tragique histoire, que nous avions dîné et couché là, jadis. Mon père m'emmenait dans Lyon, chez un spécialiste qui devait guérir mon genou. Il fallait prendre un grand express qui passait avant le jour. Je me souvins du triste dîner de jadis, de toutes les histoires du vieux guerrier accoudé devant sa bouteille de boisson rose. Et je me souvenais aussi de mes terreurs. Après le dîner, assise devant le feu, ma grand-tante avait pris mon père à part pour lui raconter une histoire de revenant. Je me retourne. « Ah, mon pauvre Louis, qu'est-ce que je vois, une petite femme grise !» Elle passait pour avoir la tête farcie de ses sordettes terrifiantes. Et voici que ce soir-là, le dîner fini, lorsque, fatigué par la bicyclette, je fus couché dans la grande chambre avec une chemise de nuit à carreaux de l'oncle Moinel, elle vint s'asseoir à mon chevet et commença de sa voix la plus mystérieuse et la plus pointue. « Mon pauvre François, il faut que je te raconte à toi ce que je n'ai jamais dit à personne. » « Ah, je pensais, mon affaire est bonne, me voilà terrorisé pour toute la nuit, comme il y a 10 ans. » Et j'écoutais. Elle hochait la tête, regardant droit devant soi comme si elle se fût raconté l'histoire à elle-même. Je revenais d'une fête avec Moinel. C'était le premier mariage où nous allions tous les deux depuis la mort de notre pauvre Ernest, et j'y avais rencontré ma sœur Adèle, que j'avais pas vue depuis 4 ans. Un vieil ami de Moinel, très riche, l'avait invité à la noce de son fils au domaine des Sablonnières. Nous avions loué une voiture. Cela nous avait coûté bien cher. Nous revenions sur la route vers 7 heures du matin en plein hiver. Le soleil se levait, il n'y avait absolument personne. Qu'est-ce que je vois tout d'un coup devant nous, sur la route? Un petit homme, un petit jeune homme arrêté, beau comme le jour, qui ne bougeait pas, qui nous regardait venir. À mesure que nous approchions, nous distinguions sa jolie figure, si blanche, si jolie, que cela faisait peur. Oh, je prends le bras de Moinel. Je tremblais comme la feuille. Je croyais que c'était le bon Dieu. Je lui dis, « Regarde, c'est une apparition. » Et il me répond tout bas, furieux, « Oh, je l'ai bien vu, tais-toi donc, vieille bavarde. » Il ne savait que faire. Lorsque le cheval s'est arrêté, de près, cela avait une figure pâle, le front en sueur, un béret sale, et un pantalon long. Nous entendîmes sa voix qui disait « Je ne suis pas un homme, je suis une jeune fille, je me suis sauvée, et j'en puis plus. Voulez-vous bien me prendre dans votre voiture, monsieur et madame ?» Aussitôt, nous l'avons fait monter. À peine assise, elle a perdu connaissance. Et devines-tu à qui nous avions affaire ? C'était la fiancée du jeune homme des Sablonnières, Franz de Galais, chez qui nous étions invités aux noces. « Mais il n'y a pas eu de noces, dis-je, puisque la fiancée s'est sauvée. »« Eh bien non, fit-elle, toute penaude en me regardant, il n'y a pas eu de noces, puisque cette pauvre folle s'était mise dans la tête 1000 folies qu'elle nous a expliquées. C'était une des filles d'un pauvre tisserand. Elle était persuadée que tant de bonheur était impossible, que le jeune homme était trop jeune pour elle, que toutes les merveilles qu'il lui décrivait étaient imaginaires. Et lorsqu'enfin Franz est venu la chercher, Valentine a pris peur. Il se promenait avec elle et sa sœur dans le jardin de l'archevêché à Bourges, malgré le froid et le grand vent. Le jeune homme, par délicatesse certainement, parce qu'il aimait la cadette, était plein d'attention pour l'aînée. Alors, ma folle s'est imaginée je ne sais quoi. Elle a dit qu'elle allait chercher un fichu à la maison, et là, pour être sûre de n'être pas suivie, elle a revêtu des habits d'homme et s'est enfuie à pied sur la route de Paris. Et son fiancé a reçu d'elle une lettre où elle lui déclarait qu'elle allait rejoindre un jeune homme qu'elle aimait. Et c'était pas vrai. Je suis plus heureuse de mon sacrifice, me disait-elle, que si j'étais sa femme. Oui, mon imbécile. Mais en attendant, il n'avait pas du tout l'idée d'épouser sa sœur. Et il s'est tiré une balle de pistolet. On a vu le sang dans le bois, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et qu'avez-vous fait de cette malheureuse fille ? Oh, nous lui avons fait boire une goutte d'abord, et puis nous lui avons donné à manger. Elle a dormi auprès du feu quand nous avons été de retour. Elle est restée chez nous une bonne partie de l'hiver. Tout le jour, quand il faisait clair, elle taillait, cousait des robes, arrangeait les chapeaux et nettoyait la maison avec rage. C'est elle qui a recollé toute la tapisserie que tu vois là. Et depuis son passage, les hirondelles nichent dehors. Mais le soir, à la tombée de la nuit, son ouvrage fini, elle trouvait toujours un prétexte pour aller dans la cour, dans le jardin ou sur le devant de la porte, même quand il gelait à pierre fendre. Et on la découvrait là, debout, pleurant de tout son cœur. Eh bien, qu'avez-vous encore, voyons ? Oh, rien, madame Moinelle. Et elle rentrait. Les voisins disaient : Ah, vous avez trouvé une bien petite, jolie petite bonne. Malgré nos supplications, elle a voulu continuer son chemin sur Paris au mois de mars. Je lui ai donné des robes qu'elle a retaillées. Moinet lui a pris son billet à la gare et donné un peu d'argent. Oh, elle ne nous a pas oubliés. Elle est couturière à Paris auprès de Notre-Dame. Elle nous écrit encore pour nous demander si nous ne savons rien des sablonnières. Une bonne fois, pour la délivrer de cette idée, je lui ai répondu que le domaine était vendu, abattu, le jeune homme disparu pour toujours et la jeune fille mariée. Tout cela doit être vrai, je pense. Depuis ce temps, ma Valentine écrit bien moins souvent. Ce n'était pas une histoire de revenant que racontait la tante Moinelle de sa petite voix si bien faite pour les raconter. J'étais cependant au comble du malaise. C'est que nous avions juré à Franz, le bohémien, de le servir comme des frères, et voici que l'occasion s'en était donnée. Or, était-ce le moment de gâter la joie que j'allais porter à Maulne le lendemain matin et de lui dire ce que je venais d'apprendre? À quoi bon le lancer dans une entreprise mille fois impossible? Nous avions en effet l'adresse de la jeune fille, mais où chercher le bohémien qui courait le monde? Laissons les fous avec les fous, pensais-je. Delouche et Boujardon n'avaient pas tort. Que de mal nous a fait ce Franz romanesque. Et je résolus de ne rien dire tant que je n'aurais pas vu marier Augustin Maulne et Mademoiselle de Galais. Cette résolution prise, il me restait encore l'impression pénible d'un mauvais présage, impression absurde que je chassais bien vite. La chandelle était presque au bout. Un moustique vibrait. Mais la tante Moinelle, la tête penchée sous sa capote de velours qu'elle ne quittait que pour dormir, les coudes appuyés sur ses genoux, recommençait son histoire. Par moments, elle relevait brusquement la tête et me regardait pour connaître mes impressions, ou peut-être pour voir si je ne m'endormais pas. À la fin, sournoisement, la tête sur l'oreiller, je fermais les yeux, faisant semblant de m'assoupir. « Allons, tu dors ? » fit-elle d'un ton plus sourd et un peu déçu. J'eus pitié d'elle et je protestais. « Mais non, ma tante, je vous assure. »« Mais si, dit-elle, je comprends bien d'ailleurs que tout cela ne t'intéresse guère. Je te parle là de gens que tu n'as pas connus. » Et lâchement, cette fois, je ne répondis pas. Chapitre 4. La grande nouvelle. Il faisait le lendemain matin, quand j'arrivais dans la grande rue, un si beau temps de vacances, un si grand calme, et sur tout le bourg passaient des bruits si paisibles, si familiers, que j'avais retrouvé toute la joyeuse assurance d'un porteur de bonnes nouvelles. Augustin et sa mère habitaient l'ancienne maison d'école. À la mort de son père, retraité depuis longtemps, et qu'un héritage avait enrichi, Maud avait voulu qu'on achetât l'école où le vieil instituteur avait enseigné pendant 20 années et où lui-même avait appris à lire. Non pas qu'elle fût d'aspect fort aimable, c'était une grosse maison carrée, comme une mairie qu'elle avait été. Les fenêtres du rez-de-chaussée qui donnaient sur la rue étaient si hautes que personne n'y regardait jamais, et la cour de derrière, où il n'y avait pas un arbre et dont un haut préau barrait la vue sur la campagne, était bien la plus sèche et la plus désolée cour d'école abandonnée que j'ai jamais vue. Dans le couloir compliqué, où se trouvaient 4 portes, je trouvais la mère de Maune rapportant du jardin un gros paquet de linge qu'elle avait dû mettre sécher de la première heure de cette longue matinée de vacances. Ses cheveux gris étaient à demi défaits, des mèches lui battaient la figure. Son visage régulier sous sa coiffure ancienne était bouffi et fatigué comme par une nuit de veille, et elle baissait tristement la tête d'un air songeur. Mais, m'apercevant soudain, elle me reconnut et sourit. « Ah, vous arrivez à temps, dit-elle. Voyez, je rentre le linge que j'ai fait sécher pour le départ d'Augustin. J'ai passé la nuit à régler ses comptes et à préparer ses affaires. Le train part à 5 heures. Mais nous arriverons à tout apprêter. » On eût dit, tant elle montrait l'assurance, qu'elle-même avait pris cette décision. Or, sans doute, ignorait-elle même où Maulne devait aller. « Montez, dit-elle, vous le trouverez dans la mairie en train d'écrire. » En hâte, je grimpai l'escalier, ouvris la porte de droite où l'on avait laissé l'écriteau « mairie » et me trouvai dans une grande salle à 4 fenêtres, 2 sur le bourg, 2 sur la campagne, ornée au mur des portraits jaunis des présidents Grévy et Garneau. Sur une longue estrade qui tenait tout le fond de la salle, il y avait encore, devant une table à tapis vert, les chaises des conseillers municipaux. Au centre, assis sur un vieux fauteuil qui était celui du maire, Maud écrivait, trempant sa plume au fond d'un encrier de faïence démodée, en forme de cœur. Dans ce lieu, qui semblait fait pour quelque rentier de village, Maune se retirait quand il ne battait pas la contrée durant les longues vacances. Il se leva dès qu'il m'eut reconnu, mais non pas avec la précipitation que j'avais imaginée. « Serait-elle ? » dit-il seulement d'un air de profond étonnement. C'était le même grand gars, au visage osseux, à la tête rasée. Une moustache inculte commençait à lui traîner sur les lèvres. Toujours ce même regard loyal. Mais, sur l'ardeur des années passées, on croyait voir comme un voile de brume que par instants sa grande passion de jadis dissipait. Il paraissait très troublé de me voir. D'un bond, j'étais monté sur l'estrade, mais... chose étrange à dire, il ne songea pas même à me tendre la main. Il s'était retourné vers moi, les mains derrière le dos, appuyé contre la table, renversé en arrière, et l'air profondément gêné. Déjà, me regardant sans me voir, il était absorbé par ce qu'il allait me dire. Comme autrefois et comme toujours, Homme lent à commencer de parler, ainsi que sont les solitaires, les chasseurs et les hommes d'aventure, il avait pris une décision sans se soucier des mots qu'il faudrait pour l'expliquer. Et maintenant que j'étais devant lui, il commençait seulement à ruminer péniblement les paroles nécessaires. Cependant, je lui racontais avec gaieté comment j'étais venu, où j'avais passé la nuit, et que j'avais été bien surpris de voir Madame Moon préparer le départ de son fils. « Ah, elle t'a dit ?» demanda-t-il. « Oui, oui, ce n'est pas, je pense, pour un long voyage. »« Oh, si, un très long voyage. » Un instant décontenancé, sentant que j'allais tout à l'heure d'un mot réduire à néant cette décision que je ne comprenais pas, je n'osais plus rien dire et ne savais pas par où commencer ma mission. Mais lui-même parla enfin comme quelqu'un qui veut se justifier. « Sorel, dit-il, tu sais ce qu'était pour moi mon étrange aventure de Sainte-Agathe. C'était ma raison de vivre et d'avoir de l'espoir. Cet espoir-là perdu, que pouvais-je devenir ? Comment vivre à la façon de tout le monde ? Eh bien, j'ai essayé de vivre là-bas, à Paris, quand j'ai vu que tout était fini et qu'il ne valait plus même la peine de chercher le domaine perdu. Mais un homme qui a fait une fois un bond dans le paradis, comment pourrait-il s'accommoder ensuite de la vie de tout le monde ? Ce qui est le bonheur des autres m'a paru une dérision. Et lorsque, sincèrement, délibérément, j'ai décidé un jour de faire comme les autres, ce jour-là, j'ai amassé du remords pour longtemps. Assis sur une chaise de l'estrade, la tête basse, l'écoutant sans le regarder, je ne savais que penser de ces explications obscures. « Enfin, dis-je, Moon, explique-toi mieux. Pourquoi ce long voyage ? As-tu quelque faute à réparer, une promesse à tenir ?» « Eh bien oui, répondit-il. Tu te souviens de cette promesse que j'avais faite à Franz ?»« Ah ! » fis-je soulagé, « il ne s'agit que de cela. »« De cela ? Et peut-être aussi d'une faute à réparer, les deux en même temps. » Suivit un moment de silence, pendant lequel je décidai de commencer à parler et préparer mes mots. « Oh, il n'y a qu'une explication à laquelle je crois, » dit-il encore. « Certes, j'aurais voulu revoir une fois Mademoiselle de Galais, seulement la revoir. Mais j'en suis persuadé maintenant. Lorsque j'avais découvert le domaine sans nom, j'étais à une hauteur, à un degré de perfection et de pureté que je n'atteindrais jamais plus. Dans la mort seulement, comme je te l'écrivais un jour, je retrouverai peut-être la beauté de ce temps-là. » Il changea de ton pour reprendre avec une animation étrange en se rapprochant de moi. « Mais écoute, Sorel, cette intrigue nouvelle et ce grand voyage, cette faute que j'ai commise et qu'il faut réparer, c'est en un sens mon ancienne aventure qui se poursuit. » Un temps pendant lequel péniblement il essaya de ressaisir ses souvenirs. J'avais manqué l'occasion précédente. Je ne voulais pour rien au monde laisser passer celle-ci. Et cette fois, je parlais trop vite, car je regrettais amèrement plus tard de n'avoir pas attendu ses aveux. Je prononçais donc ma phrase, qui était préparée pour l'instant d'avant, mais qui n'allait plus maintenant. Je dis, sans un geste, à peine en soulevant un peu la tête, « Et si je venais t'annoncer que tout espoir n'est pas perdu ?» Il me regarda, puis, détournant brusquement les yeux, rougit comme je n'ai jamais vu quelqu'un rougir, une montée de sang qui devait lui cogner à grands coups dans les tempes. « Que veux-tu dire ? » demanda-t-il enfin, à peine distinctement. Alors, tout d'un trait, je racontai ce que je savais, ce que j'avais fait, et comment, la face des choses ayant tourné, il semblait presque que ce fût Yvonne de Galais qui m'envoyait vers lui. il était maintenant affreusement pâle. Durant tout ce récit, qu'il écoutait en silence, la tête un peu rentrée, dans l'attitude de quelqu'un qu'on a surpris et qui ne sait comment se défendre, se cacher ou s'enfuir, il ne m'interrompit, je me rappelle, qu'une seule fois. Je lui racontais en pensant que toutes les sablonnières avaient été démolies et que le domaine d'autrefois n'existait plus. « Ah, dit-il, tu vois, comme s'il eût guetté une occasion de justifier sa conduite et le désespoir où il avait sombré, tu vois, il n'y a plus rien. » Pour terminer, persuadé qu'enfin l'assurance de tant de facilité emporterait le reste de sa peine, je lui racontais qu'une partie de campagne était organisée par mon oncle Florentin, que Mademoiselle de Galais devait y venir à cheval et que lui-même était invité. Mais il paraissait complètement désemparé et continuait à ne rien répondre. « Il faut tout de suite décommander ton voyage, » dis-je avec impatience. « Allons avertir ta mère. » « Oh, cette partie de campagne, » me demanda-t-il avec hésitation. « Alors, vraiment, il faut que j'y aille ?»« Mais voyons, » répliquai-je, « cela ne se demande pas. » Il avait l'air de quelqu'un qu'on pousse par les épaules. En bas, Augustin avertit Madame Maulne que je déjeunerais avec eux, dînerais et coucherais là, et que le lendemain lui-même louerait une bicyclette et me suivrait au vieux Nancet. « Ah, très bien !» fit-elle en hochant la tête, comme si ces nouvelles eussent confirmé toutes ses prévisions. Je m'assis dans la petite salle à manger, sous les calendriers illustrés, les poignards ornementés et les outres soudanaises, qu'un frère de M. Maulne, ancien soldat d'infanterie de marine, avait rapporté de ses lointains voyages. Augustin me laissa là un instant avant le repas, et dans la chambre voisine, où sa mère avait préparé ses bagages, je l'entendis qui lui disait, en baissant un peu la voix, de ne pas défaire sa malle, car son voyage pouvait être seulement retardé. Chapitre 5. La partie de plaisir. J'eus peine à suivre Augustin sur la route du vieux Nancet. Il allait comme un coureur de bicyclette. Il ne descendait pas aux côtes. À son inexplicable hésitation de la veille, avait succédé une fièvre, une nervosité, un désir d'arriver au plus vite qui ne laissait pas de m'effrayer un peu. Chez mon oncle, il montra la même impatience. Il parut incapable de s'intéresser à rien jusqu'au moment où nous fûmes tous installés en voiture vers 10 heures le lendemain matin et prêts à partir pour les bords de la rivière. On était à la fin du mois d'août, au déclin de l'été. Déjà les fourreaux vides des châtaigniers jaunis commençaient à joncher les routes blanches. Le trajet n'était pas long, la ferme des Aubiers, près du Cher où nous allions, ne se trouvait guère qu'à 2 kilomètres au-delà des Sablonnières. De loin en loin, nous rencontrions d'autres invités en voiture et même des jeunes gens à cheval, que Florentin avait conviés audacieusement au nom de M. de Galais. On s'était efforcé, comme jadis, de mêler riches et pauvres, châtelains et paysans. C'est ainsi que nous vîmes arriver à bicyclette Jasmin de Louche, qui, grâce aux gardes maladiers, avait fait naguère la connaissance de mon oncle. « Et voilà, » dit Beau en l'apercevant, « celui qui tenait la clé de tout pendant que nous cherchions jusqu'à Paris, c'est à désespérer. » Chaque fois qu'il le regardait, sa rancune en était augmentée. L'autre, qui s'imaginait au contraire avoir droit à toute notre reconnaissance, escorta notre voiture de très près jusqu'au bout. On voyait qu'il avait fait misérablement sans grand résultat des frais de toilette, et les pans de sa jaquette élimée battaient le garde-crotte de son vélicipède. Malgré la contrainte qu'il s'imposait pour être aimable, sa figure vieillotte ne parvenait pas à plaire. Il m'inspirait plutôt à moi une vague pitié. Mais de qui n'aurais-je pas eu pitié durant cette journée-là? Je ne me rappelle jamais cette partie de plaisir sans un obscur regret, comme une sorte d'étouffement. Je m'étais fait de ce jour tant de joie à l'avance. Tout paraissait si parfaitement concerté que nous soyons heureux, et nous l'avons été si peu. Que les bords du Cher étaient beaux pourtant. Sur la rive où l'on s'arrêta, le coteau venait finir en pente douce, et la terre se divisait en petits prés verts, en saulaies séparés par des clôtures, comme autant de jardins minuscules. De l'autre côté de la rivière, les bords étaient formés de collines grises, abruptes, rocheuses, et sur les plus lointaines, on découvrait parmi les sapins de petits châteaux romantiques avec une tourelle. Au loin, par instant, on entendait aboyer la meute du château de Prévranges. Nous étions arrivés en ce lieu par un dédale de petits chemins, tantôt hérissés de cailloux blancs, tantôt remplis de sable, chemin qu'au bord de la rivière, les sources vives transformaient en ruisseaux. Au passage, les branches des groseilliers sauvages nous agrippaient par la manche. Et tantôt nous étions plongés dans la farèche obscurité des fonds de ravins, tantôt au contraire, les haies interrompues nous baignions dans la claire lumière de toute la vallée. Au loin, sur l'autre rive, quand nous approchâmes, un homme accroché au roc, d'un geste lent, tendait des cordes à poisson. Qu'il faisait beau, mon Dieu! Nous nous installâmes sur une pelouse dans le retrait que formait un taillis de bouleaux. C'était une grande pelouse rase où il semblait qu'il y eût place pour des jeux sans fin. Les voitures furent dételées, les chevaux conduits à la ferme des Aubiers. On commença à déballer les provisions dans le bois et à dresser sur la prairie de petites tables pliantes que mon oncle avait apportées. Il fallut à ce moment des gens de bonne volonté pour aller à l'entrée du grand chemin voisin, guetter les derniers arrivants et leur indiquer où nous étions. Je m'offris aussitôt. Moon me suivit et nous allâmes nous poster près du pont suspendu au carrefour de plusieurs sentiers et du chemin qui venait des Sablonnières. Marchant de long en large, parlant du passé, tâchant tant bien que mal de nous distraire, nous attendions. Il arriva encore une voiture du vieux Nancet, de paysans inconnus, avec une grande fille enrubannée, puis plus rien. Si, trois enfants dans une voiture à âne, les enfants de l'ancien jardinier des Sablonnières. « Ah, il me semble que je les reconnais, » dit Moon. « Ce sont eux, je crois bien, qui m'ont pris par la main jadis. » Le premier soir de la fête et m'ont conduit au dîner. Mais à ce moment, l'âne ne voulant plus marcher, les enfants descendirent pour le piquer, le tirer et cogner sur lui tant qu'ils purent. Alors Moon, déçu, prétendit s'être trompé. Je leur demandai s'ils avaient rencontré sur la route M. et Mlle de Galais. L'un d'eux répondit qu'il ne savait pas. L'autre, « Ah, je pense que oui, monsieur !» Et nous ne fûmes pas plus avancés. Ils descendirent enfin vers la pelouse, les uns tirant l'anon par la bride, les autres poussant derrière la voiture. Nous reprîmes notre attente. Moon regardait fixement le détour du chemin des Sablonnières, guettant avec une sorte d'effroi la venue de la jeune fille qu'il avait tant cherchée jadis. Un énervement bizarre et presque comique qu'il passait sur Jasmin s'était emparé de lui et du petit talus où nous étions grimpés pour voir au loin le chemin. Nous apercevions sur la pelouse en contrebas un groupe d'invités où deux louches essayaient de faire bonne figure. « Regarde le Perroret, cet imbécile !» me disait Moon. Et je lui répondais « Ben laisse-le !» Il fait ce qu'il peut, le pauvre garçon. Augustin ne désarmait pas. Là-bas, un lièvre ou un écureuil avait dû déboucher d'un fourré. Jasmin, pour assurer sa contenance, fit mine de le poursuivre. « Allons bon, il court maintenant !» fit Mône, comme si vraiment cette audace-là dépassait toutes les autres. Et cette fois, je ne pus m'empêcher de rire. Mône aussi, mais ce ne fut qu'un éclair. Après un nouveau quart d'heure, « Si elle ne venait pas, dit-il. » Je répondis, « Mais puisqu'elle a promis, mais sois donc plus patient. » Il recommença de guetter, mais à la fin, incapable de supporter plus longtemps cette attente intolérable. « Écoute-moi, dit-il, je redescends avec les autres. Je ne sais ce qu'il y a maintenant contre moi, mais si je reste là, je sens qu'elle ne viendra jamais, qu'il est impossible qu'au bout de ce chemin, tout à l'heure, elle apparaisse. » Et il s'en alla vers la pelouse, me laissant tout seul. Je fis quelques 100 mètres sur la petite route pour passer le temps. Et au premier détour, j'aperçus Yvonne de Galais montée en Amazone sur son vieux cheval blanc, si fringant ce matin-là qu'elle était obligée de tirer sur les rênes pour l'empêcher de trotter. À la tête du cheval, péniblement en silence, marchait M. de Galais. Sans doute ils avaient dû se relayer sur la route, chacun à tour de rôle se servant de la vieille monture. Quand la jeune fille me vit tout seul, elle sourit, sauta prestement à terre et, confiant les rênes à son père, se dirigea vers moi qui accourait. « Ah, je suis bien heureuse, dit-elle, de vous trouver seule, car je ne veux montrer à personne qu'à vous, le vieux Bélisaire, dit le maître avec les autres chevaux. Il est trop laid et trop vieux d'abord, puis je crains toujours qu'il ne soit blessé par un autre. Or, je n'ose monter que lui, et quand il sera mort, je n'irai plus à cheval. » Chez Mademoiselle de Galais, comme chez Mône, je sentais sous cette animation charmante, sous cette grâce en apparence si paisible, de l'impatience et presque de l'anxiété. Elle parlait plus vite qu'à l'ordinaire. Malgré ses joues et ses pommettes roses, il y avait autour de ses yeux, à son front par endroits, une pâleur violente où se lisait tout son trouble. Nous convînmes d'attacher Bélisaire à un arbre dans un petit bois proche de la route. Le vieux monsieur de Galais, sans mot dire comme toujours, sortit le nickel des fontes et attacha la bête, un peu bas, ce qu'il me sembla. De la ferme, je promis d'envoyer tout à l'heure du foin, de l'avoine et de la paille. Et Mademoiselle de Galais arriva sur la pelouse, comme jadis, je l'imagine. Elle descendit vers la berge du lac lorsque Maul ne l'aperçut pour la première fois. Donnant le bras à son père, écartant de sa main gauche le pan du grand manteau léger qui l'enveloppait, elle s'avançait vers les invités, de son air à la fois si sérieux et si enfantin. Je marchais auprès d'elle. Tous les invités éparpillés ou jouant au loin s'étaient dressés et rassemblés pour l'accueillir. Il y eut un bref instant de silence, pendant lequel chacun la regarda s'approcher. Maulne s'était mêlé au groupe des jeunes hommes et rien ne pouvait le distinguer de ses compagnons, sinon sa haute taille. Encore y avait-il là des jeunes gens presque aussi grands que lui. Alors il ne fit rien qui pût le désigner à l'attention, pas un geste, ni un pas en avant. Je le voyais, vêtu de gris, immobile, regardant fixement, comme tous les autres, la si belle jeune fille qui venait. À la fin, pourtant, d'un mouvement inconscient et gêné, il avait passé la main sur sa tête nue, comme pour cacher au milieu de ses compagnons, aux cheveux bien peignés, sa rude tête rasée de paysan. Puis le groupe entoura Mademoiselle de Galais. On lui présenta les jeunes filles et les jeunes gens qu'elle ne connaissait pas. Le tour allait venir de mon compagnon. Je me sentais aussi anxieux qu'il pouvait l'être. Je me disposais à faire moi-même cette présentation. Mais avant que j'eusse pu rien dire, La jeune fille s'avança vers lui avec une décision et une gravité surprenantes. Oh, « Je reconnais Augustin Maulne, » dit-elle. Et elle lui tendit la main.